Ce matin, nous poursuivons notre série « Tout simplement Jésus ». La semaine prochaine, c'est Pasteur Michael qui va nous apporter le message et la suite, en fait, de cette série-là. J'invite d'être présent pour ce message. Alors, notre texte de base se trouve dans 2 Corinthiens 11, le verset 3. Ça dit « Cependant, de même que le serpent a trompé Ève par sa ruse, j'ai peur que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité et de la pureté vis-à-vis de Christ. » Et c'est un peu le but de cette série-là, de retourner à la simplicité de la personne de Jésus à travers les évangiles. On a vu différents trucs la semaine passée, à quel point Jésus était et il a mis des pécheurs. Et il y a et cet amour-là qui est extravagant. Il y a deux semaines, on a commencé avec cette grâce-là qui est scandaleuse, de le fait que Jésus est mort pour nous et qu'il a tout donné, il a tout accompli pour nous. On n'a plus rien à faire pour gagner notre ciel, ce qui est quand même une pas pire bonne nouvelle. Ce matin, dans Matthieu 15, des versets 1 à 9, nous allons débuter avec ce texte qui dit « Alors les pharisiens et les spécialistes de la loi vinrent de Jérusalem trouver Jésus et dire « Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? En effet, ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. » Il leur répondit « Et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? En effet, Dieu a dit, « Honore ton père et ta mère, celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. » Mais d'après vous, celui qui dira à son père ou à sa mère, « Ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. » Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Hypocrite, Isaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit, « Ce peuple prétend s'approcher de moi, m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » C'est faussement qu'il m'honore en donnant des enseignements qui sont des commandements humain. Maintenant, on va voir que Jésus était à contre-courant. C'est fou, parce qu'avant que Jésus arrive, les chefs religieux, qui sont appelés les scribes, les pharisiens à l'époque, c'était eux qui étaient rois et maîtres. En fait, on ne pouvait pas venir contre ce que ces gens-là disaient, parce que c'est eux qui détenaient la vérité. C'est eux qui parlaient au nom de Dieu. C'est eux qui connaissaient Dieu. C'est eux qui connaissaient la parole de Dieu, les écrits. C'est fou. Et tout le monde les suivait, les gens allaient dans les synagogues, les gens écoutaient ce qu'ils disaient comme étant, on n'a pas vraiment le choix, c'est ça qu'ils disent, et on prenait ça comme du cash. Comme c'est ce que Dieu veut dans nos vies. Et Jésus est arrivé, et lui est allé à contre-courant des chefs religieux de l'époque, ceux qui prétendaient connaître Dieu. Et en bon québécois, il les a ramassés solides. Si vous avez déjà lu les évangiles, à travers les évangiles, c'est une des choses qui revient le plus souvent, c'est à quel point Jésus va confronter les chefs religieux. Et c'est un peu ce qui se passe ici. Il va dire même justement, vous honorez Dieu de vos lèvres. Vous chantez des belles louanges, vous donnez des belles paroles au nom de Dieu, mais votre cœur n'est même pas là. C'est fou, là. Il fallait avoir du gosse. Ils confrontent tous les chefs religieux, pas un ou deux, toute la gang. Et les chefs religieux sont en colère après Jésus parce que, en fait, Jésus va arriver et on va voir à quel point Jésus est à contre-courant de son époque. Et à cause de cela, les chefs religieux sont pas contents parce qu'ils disent, il vient déranger la loi et l'ordre que nous, on a établi. C'est qui ce gars-là? Et c'est un peu ça qui va conduire au fait qu'ils vont, faire une conspiration pour le faire mettre à mort. Injustement. La religion, ça égale la performance, l'élitisme, la perfection, la pression, les reproches, les fardeaux, la peur. Et ce que ça donne pour résultat, c'est l'épuisement spirituel, la honte, l'éloignement et une mauvaise conception de Dieu, l'hypocrisie, la culpabilité. Ce matin, si vous sentez de la culpabilité par rapport à Dieu, si vous vous sentez hypocrite par rapport à Dieu, si vous sentez de la honte, bien en fait, c'est que vous êtes pas mal loin de Dieu et vous n'écoutez pas la bonne voix. Parce que Jésus n'est pas là pour venir mettre de la culpabilité, de la peur, de la honte, de la pression, la perfection. Et souvent, malheureusement, c'est ce qu'on voit. C'est que, j'en ai parlé un peu la semaine dernière, mais le fait que quand tu arrives à Dieu, voici le code de conduite, voici comment tu dois être si tu veux être un bon chrétien. Et ça, c'est la religion. Et la religion, justement, va arriver pour faire peur. Combien de fois, malheureusement, j'ai moi-même été dans des situations où je me suis retrouvé, c'est comme, hey, si tu n'acceptes pas Dieu maintenant, là, peut-être que c'est fini pour l'éternité. Hey, ça, c'est stressant pareil. C'est stressant pareil. Et malheureusement, des fois, on agit, on voudrait tellement que les gens acceptent Dieu, on voudrait tellement que les gens soient ici, on voudrait tellement qu'on va utiliser tous les moyens, dont la peur, dont la pression. Et une fois qu'ils se sont approchés, on va leur mettre des fardeaux sur eux et on va dire, maintenant, voici ce qu'il faut que tu atteignes. Voici, il y a une perfection à atteindre. Et quand on fait cela, bien, on n'est pas mieux que toutes les autres religions. Parce que, c'est vrai, toutes les religions du monde, qu'est-ce que c'est? C'est des pas à faire, c'est des cheminements à faire pour arriver à un certain nirvana, un état spirituel, pour être meilleur, avoir cet état-là spirituel. Et Jésus est venu confronter toutes ces règles-là, toutes ces lois-là qui avaient été établies par les chefs religieux. Jésus était à contre-courant. Dans Matthieu 6, les versets 1 à 6, ça dit « Gardez-vous bien de faire des dons devant les hommes pour qu'ils vous regardent. Sinon, vous n'aurez pas de récompense auprès de votre Père céleste. Donc, lorsque tu fais un don à quelqu'un, ne sonne pas la trompette devant toi, comme le font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin de recevoir la gloire qui vient des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais toi, quand tu fais un don, que ta main gauche ne sache pas ce que ta droite, afin que ton don se fasse en secret et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Lorsque tu pries, ne sois pas comme les hypocrites. Ils aiment prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret et ton Père qui le voit dans le secret te le rendra. » Des gens voyaient les chefs religieux faire « Oh, wow! » Il fait donc bien une belle grosse amende. Hey, ces gens-là, ils prient à haute voix, puis ils se font valoir, ils se font montrer. Et ça, c'était comme l'élite spirituelle. C'est-à-dire que si tu veux un jour être proche de Dieu, voici ce qu'il faut que tu fasses. Et c'est étonnant à quel point Jésus vient renverser tout ça, puis il dit non. La seule personne qui peut voir ça, c'est Dieu. N'essaye pas de te montrer à quel point tu es spirituel, à quel point tu es bon. Il le dit, c'est les gens qui font ça, ils ont leur récompense. Mais toi, il dit, va dans le secret. Ce que tu fais, fais-le dans le secret. Fais-le pas pour te montrer, fais-le pas pour te vendre, fais-le pas pour avoir un titre, une position. Va dans le secret. C'est fou pareil. Quand on pense une minute, Jésus, le roi de gloire, il y a quelques instants, il était assis sur un trône. Là. On ne sait pas trop où, mais il est sur un trône. Dans la gloire. Les anges l'adorent. Il est tout puissant. Et lui, il débarque, puis il fait comme, tch, 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 on n'en parle pas. C'est vrai, pareil, c'est fou là, quand tu penses à ça. C'est sûr et certain que Jésus n'aurait pas été un influenceur aujourd'hui. C'est clair, là. C'est assez clair. Mais c'est fou pareil de penser ça, qu'au lieu d'arriver puis ici, voici ce que vous me devez. Et lui, il s'efface et il dit, voici ce que vous devez faire. Complètement à contre-courant des chefs religieux qui étaient là pour se montrer, se faire valoir. Et des fois, moi, ça me pose une question, honnêtement, sur la façon dont, des fois, l'Église est représentée. Et des fois, sur, tu sais, même Paul l'a dit, il dit, et parce qu'à l'époque, les chefs religieux, chaque personne qui devait choisir un disciple, devait choisir un maître pour être son disciple. Et moi, j'étais le maître de. Et là, c'est quand Jésus arrive avec lui, sa gang de tout croche. Pourquoi? Mais c'est quoi sa gang-là? C'est quoi ce chef-là? Et Paul, plus tard, va dire, dans Corinthiens, il va dire, bien, il dit là, il y a des gens qui se disent de Paulos, de Paul, de ci, de ça, parce que c'est. Et des fois, malheureusement, c'est ce qu'on fait. On est attaché à une personne plus qu'à Jésus lui-même. Et des fois, on vend plus notre personnalité qu'on vend Jésus. On vend plus un produit qu'on vend Jésus. Bob Goff a dit, nous n'avons pas besoin de plus d'informations, nous avons besoin de plus d'exemples. Sois cette personne et tu vas changer le monde. Et aujourd'hui, dans l'ère de l'information, on dirait que c'est ça qu'on cherche, avoir la connaissance. De savoir plus. Mais les érudits, les chefs religieux de l'époque, c'est ce qu'il y avait, eux. Et avec la connaissance, ils pensaient être proches de Dieu. Mais Jésus est arrivé et il a dit, vous pensez connaître, mais vous ne faites même pas ce que vous dites aux autres de faire. Vous êtes des, vous n'êtes pas des, des exemples du royaume de Dieu. Et après ça, vous reprochez aux gens de ne pas faire ce que vous ne faites pas. En tout cas, vous comprenez? C'est compliqué l'affaire, là. Avec eux autres, c'est tout le temps compliqué. Et Jésus a simplifié ça. Et Jésus a juste dit, suis-moi. Regarde ce que je fais. Regarde comment je suis avec les gens. Regarde comment je suis avec Dieu. Regarde ma vie spirituelle. Et fais juste me suivre. Fais juste emboîter le pas dans mes pas à moi. Et ces pas à lui sont à contre-courant des chefs religieux de l'époque. Et ça dérangeait. Ça dérangeait énormément. Mais aujourd'hui, ce qu'on a plus de besoin, c'est d'exemples, de bons exemples. Et pas d'exemples parfaits, parce que des fois, on pense qu'aujourd'hui, dans la société dans laquelle on vit, ça prend un exemple parfait pour dire, ah, cette personne-là, elle suit Dieu. Non. Ça prend des exemples authentiques. C'est ça que les gens ont besoin. De voir de vraies personnes avec de vrais défis, de vrais problèmes, comme eux, ils vivent, mais de dire, j'ai décidé de m'accrocher à Dieu, de suivre Dieu. Ma foi n'est pas parfaite, mais j'ai ma foi, mais au moins, je ne prétends pas que moi, je suis parfait. Je ne prétends pas qu'on doit être parfait. Je ne prétends pas que l'Église est parfaite. Parce que trop souvent, on présente une image qui est très lichée de ce que la foi est, de ce que l'Église est, de ce que Dieu est, et les gens sont déçus. Vous savez, ce genre de produit, là, il y a moins ça maintenant, là, mais avant, la télévision, il y avait tout ça, ces annonces-là, là, j'écoute pas vraiment la télé, fait que peut-être qu'il y en a encore, mais je ne sais pas, parce que je ne vois pas les annonces. Je ne sais même pas c'est quoi les pubs présentement. C'est de la bouffe de chat ou du détergent lessive, je ne sais pas. Mais, il y avait, tu sais, ce genre de truc-là que, pour 4 paiements faciles, de 24,99, là, le genre de truc qui est le plus, c'est révolutionnaire, là. Avec ça, là, c'est quoi, ta maison va être propre. Avec ça, tu vas avoir des abdos d'enfer. Avec ça, écoute, ta voiture va reluire. Avec ça, il y en avait pour tous les goûts. Mais au final, quand tu achetais un de ces produits-là, souvent ce qui venait avec, c'est la déception. Parce que tu fais comme, hey, il me semble que le gars à télé, hein? Il me semble que la fille à télé, ça allait bien, son affaire. Là, il me semble que c'est moins beau que. Il me semble que ça fait 3 mois que j'en fais, là, la roller, là. Autant, finalement, tu sais, encore un bon bide. Il semble que le gars à télé, lui, il dit qu'il en a fait juste pendant un mois, puis tard, ben oui, il y a une shape, hein? Channing Tatum, wow! Moi, ça ne marche pas tant que ça. Et quand on présente quelque chose qui est au-delà de la réalité, c'est sûr qu'il va y avoir une déception. Mais quand on présente la réalité, on ne peut pas être déçu, parce qu'on sait à quoi s'attendre. Et ce que j'aime de Jésus, c'est qu'il n'a pas présent... Il n'a pas prétendu être autre chose. Il n'a pas essayé de montrer ça plus beau. Au contraire, il a décidé de prendre la forme humaine, d'être le fils d'un charpentier, de naître dans dans la crèche, avec un âne, un bœuf, dans une étable. Il a décidé de venir d'une famille qui n'était pas riche. Il a décidé de vivre avec des gens et d'accepter des gens dans son entourage qui n'étaient pas recommandables. Et c'est la beauté de la chose, et c'est ce qui dérangeait. Parce que ça ne peut pas être un chef religieux, encore moins le Fils de Dieu. As-tu vu sa vie? As-tu vu avec qui il se tient? As-tu vu d'où il vient? Il vient de Bethléem. Moi, je viens de Limoilou, là. Je suis fier de ça. Dans le temps, c'était pas très trendy, là. Comme là, c'est trendy, tout le monde va rester à Limoilou. Dans le temps, c'était comme, oh my, il vient de Limoilou. C'est Limoilou, Saint-Roch, là. Au camp de l'Étau, ça déconne, là. C'était pas recommandable. Et c'est pour ça que Jésus, il n'était pas recommandable pour les chefs religieux. Dans Luc 6, les versets 6 à 11, ça dit, un autre jour de sabbat, Jésus entra dans la synagogue et se mit à enseigner. Là se trouva un homme dont la main droite était paralysée. Les spécialistes de la loi et les pharisiens observaient Jésus pour voir s'il ferait une guérison le jour du sabbat, afin d'avoir un motif pour l'accuser. Faut-tu quand même, hein, être croche? Mais Jésus connaissait leurs pensées et il dit à l'homme qui avait la main paralysée, « Lève-toi et tiens-toi là au milieu. » Il se leva et se tint debout. Jésus leur dit, « Je vous demande s'il est permis le jour du sabbat de faire du bien ou du mal, de sauver une personne ou de la tuer. » Alors il promena son regard sur eux tous et dit à l'homme, « Tends ta main. » Il le fit et sa main droite fut guérie. Elle fut saine comme l'autre. Ils furent remplis de fureur et se consultèrent pour savoir ce qu'ils feraient de Jésus. Il faut-tu être pris dans ses principes pour faire en arriver là? Il cherchait un moyen pour prendre au piège Jésus tout le temps, essayer de le coincer. Et ce qu'il faut comprendre, si vous ne savez pas un peu le contexte, c'est qu'à l'époque, le jour du sabbat, il y avait une multitude de règles à suivre, aussi folles que tu ne pouvais pas cracher, il fallait que tu avales ta salive. Ton eau pour la journée, c'était ta salive. Essayez ça aujourd'hui. Vous allez trouver le temps long. Moi, j'ai besoin d'eau, là, mettons. Il fallait que tu comptes ton nombre de pas qu'il fallait que tu fasses dans ta journée. Aujourd'hui, on se fait une gloire. Regarde ta montre. Hé, hey, 10 000 pas aujourd'hui, d'atteint. À cette époque-là, tu dit, ouh, je l'ai dépassé. Tu ne pouvais pas sauver quelqu'un, tu ne pouvais pas aider quelqu'un. Il fallait. Tout était limité. Et c'était supposé être le jour du Seigneur. C'est qui prenait plaisir là-dedans? Personne. Il n'y a pas de fun, là. Même Dieu, il faisait comme. Bon, c'est épouvantable, votre vie, les gars. Et Jésus est arrivé, puis il y avait cet homme-là qui était. Et j'aime ça parce que Jésus, là, il est toujours comme. Il confronte doucement. Et là, il est arrivé avec le. Ben, qu'est-ce qui. Tu sais, c'est le jour du sabbat. Est-ce que c'est mieux de faire du bien ou du mal? C'est le jour de Dieu, là. C'est le jour de mon. Il ne l'a pas dit, mais c'est le jour de mon père. Ben, oui, je le connais mieux que toi. Et là, il dit, est-ce que c'est faire vivre quelqu'un ou le tuer? Prenez que la réponse des pharisiens a été de dire, ben, laisse-le dans son état. Lundi matin, pointe-toi au bureau 9h, on va s'arranger avec toi. Ce serait probablement la réponse des pharisiens. Et là, Jésus va guérir cet homme-là pour leur montrer, regarde. Ben oui, on peut le faire le jour du sabbat. Oui, on est là pour faire du bien. Oui, on est là pour libérer les gens, pas leur mettre un fardeau. Et à cause que Jésus a fait du bien, ces gens-là voulaient le mettre à mort. Ils ont fait comme, là, il faut trouver un moyen, là, il nous dérange. Il dérange le statu quo. Il dérange nos modes. Il dérange toutes nos convictions. Il dérange toutes nos lois et tout l'ordre qu'on établit. Mais c'est fou parce que Jésus dérangeait de la bonne façon. C'est ça qui est fou. Dans Matthieu 5, les versets 43-47, ça dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu détesteras ton ami. À l'époque, c'était œil pour œil, dent pour dent. Des fois, on se demande aujourd'hui, ça ressemble à ça pas mal. Moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous détestent et priez pour ceux qui vous maltraitent, qui vous persécutent, afin d'être le fils de votre Père Céleste. En effet, il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les collecteurs d'impôts n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les membres des autres peuples n'agissent-ils pas de même? Parce qu'encore une fois, Jésus va pousser la limite encore. On va aller à l'extrême. C'est ça qu'on vous a dit. Aime ton prochain. Aime les gens de ta famille. Aime les gens, tes proches. Aime tes amis. Aime tes... Mais ceux, les autres, là, les ceux-là, là, ben, tu as le droit de leur tirer des roches. Tu as le droit de leur cracher au visage. Tu as le droit de leur faire du mal. Œil pour œil, dent pour dent. Maudis ton ennemi. Et quel dérangement quand Jésus arrive, encore une fois, en disant quelque chose de complètement révolutionnaire, et il va dire, aime tes ennemis. Si tu salues juste les gens que tu connais et que tu aimes, tout le monde fait ça. Fait que c'est big deal. Tu n'es pas comme, ouais, je salue les gens. Mais non. Va au-delà. Repousse ta limite. Mais c'est ça que Jésus a toujours, et c'est ça qui était dérangeant, c'est qu'à chaque fois, dans chaque aspect de la vie, Jésus est arrivé, il a pris la ligne, puis il l'a déplacée. Et tout le monde fait comme, wow, on ne peut pas déplacer les lignes. Pour vrai. Et on est encore comme ça aujourd'hui. Il y a une ligne, et si tu ne peux pas déplacer la ligne, tu ne peux pas aller de l'autre côté de la ligne, il faut que tu restes dans la ligne. Et ce que j'aime de Jésus, c'est qu'il a pris, il prend les lignes et il les déplace à chaque fois. Montse Alvarado a dit, la liberté de la religion est la clé qui débarre toute autre liberté. Si tu es libre de la religion, tu vas être libre de toutes les autres. Tu vas avoir ta liberté dans toutes les autres choses. Et si j'aimerais faire une parenthèse, parce que souvent, là, et là, on est dans un contexte d'église. Fait que pour nous, la religion, puis même, probablement qu'on se dit, hey, nous, on est clair de ça. Parce que la religion, puis là, on pense à la religion traditionnelle québécoise. Ça, c'est la religion. Puis nous, on s'est sauvés de la religion. Malheureusement, trop souvent, c'est qu'on pense comme ça, mais on se remet dans une autre religion. Mais là, on a Jésus. Et malheureusement, les gens de la société disent, « Ah non, moi, la religion, je ne veux rien savoir. » Mais il y a beaucoup de gens qui disent qu'au Québec, la religion, c'est le Canadien de Montréal. C'est triste pareil quand c'est ta religion. Ça va pas bien à shop. C'est une religion qui aurait besoin d'une petite bouffée de fraîcheur. Oui, mon amour pour le Canadien. Et c'est pareil dans tout. La santé peut être ta religion, l'environnement peut être ta religion, le sport peut être ta religion, la musique peut être ta religion, ton travail peut être ta religion. Et tout peut être une religion. Et quand on s'embarque dans quelque chose où on est pris à l'intérieur de, où il y a juste ça qui compte, qu'on met tous nos efforts, toutes nos ressources dans ça, mais ça devient une religion quelque part. Et quand on a une religion, peu importe comment on l'appelle, on n'est pas libre. Et Jésus est venu, c'est ce qu'il a dit, il dit, moi je suis venu pour libérer les captifs, publier une année de grâce. Dans Luc 11, versets 45 et 46, ça dit, un des professeurs de la loi prit la parole et lui dit, maître, en parlant ainsi, c'est aussi nous que tu insultes. Jésus répondit, malheur à vous aussi, professeurs de la loi, parce que vous chargez les hommes de fardeaux difficiles à porter que vous ne touchez pas vous-même d'un seul doigt. Parce que là, vous pouvez lire, on va se passer, parce que le passage est quand même long. Et il ramasse pas mal beaucoup, là, dans Luc 11. Mais là, tu as justement les chefs religieux qui apportent, mais il y avait les professeurs de la loi. Puis eux autres qui disent, hey, quand tu dis ça, c'est nous qui t'insultent, parce que c'est nous qui leur a enseigné ça. Fait que là, pourquoi tu nous insultes? Là, ils se sentaient visés, ils se sentaient pris. Et Jésus ne les a pas épargnés. Il n'a pas dit, ben, ah oui, pour vous autres. C'est donc dommage. Je m'excuse. Et j'aime ça parce qu'il dit, malheur à vous aussi. Comment il faut le faire, là? Et il va leur dire, parce qu'il dit, en fait, vous chargez les hommes d'un fardeau difficile à porter quand vous ne touchez même pas ça d'un doigt. Vous dites aux gens, fais ce que je te dis, mais fais pas ce que je fais. Ça, c'est la religion. Et c'est facile de dire aux autres, fais ceci, mais je ne suis pas investi dans ta vie, j'y toucherai pas à ton fardeau. Je te mets un fardeau sur tes épaules, je te dis, arrange-toi avec ça. C'est un peu ça que Jésus est en train de dire. Vous placez un fardeau, puis vous n'êtes même pas capable de toucher du doigt ce fardeau-là. Vous ne le portez pas avec les gens. Bob Goff a dit, ce sera notre amour et non nos opinions qui sera notre plus grande contribution dans ce monde. Comme je disais tout à l'heure, l'exemple, l'amour, c'est ça qui va parler beaucoup plus que notre opinion, que ce qu'on pense, que ce qu'on pense savoir, où on pense être rendu, ce qu'on peut dire sur la vie des autres. Le verset qu'on va donner, parce que ça, c'est le verset clé qui va changer ta vie, qui va enlever tout ton fardeau, qui va te donner la liberté, qui va faire en sorte que, non, c'est notre amour qui va démontrer. Et c'est ce que Jésus est venu lui démontrer comme exemple. L'amour, il dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Wow! Dans Matthieu 22, les versets 34 à 40, ça dit, les pharisiens apprennent que Jésus a fermé la bouche aux Sadducéens. Alors les pharisiens se réunissent. L'un d'eux, un maître de la loi, veut tendre un piège à Jésus et lui dit encore une fois un autre piège. Maître, dans la loi, quel est le commandement le plus important? Jésus lui répondit, tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être et de toute ton intelligence. C'est le plus important et le premier des commandements. Et voici le deuxième commandement qui est aussi important que le premier. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Toute la loi de Moïse et tout l'enseignement des prophètes dépendent de ces deux commandements-là. Mais c'est fou parce que les pharisiens, c'était tous les autres commandements, eux autres. Et c'est pour ça le piège. Je dis qu'on va essayer du temps d'un piège pour savoir. On va le poigner, là. Il va nous dire quelque chose qui ne fit pas. Et il va dire, non, aime Dieu, aime ton prochain. C'est tout ce que tu as à faire. Et ça, c'est déstabilisant. Parce que comme je l'ai dit, il y avait des centaines de lois à suivre pour les Juifs, pour être saints, être proche de Dieu, être accepté de Dieu, être aimé de Dieu. Et Jésus est arrivé et il a dit, non, je te résume ça en deux choses. Aime Dieu, aime ton prochain. Si tu fais ça, toute la loi, toute l'Ancien Testament, tout ce que vos pères vous ont transmis, vous ont enseigné et résumé dans ces deux choses-là. De revenir à la simplicité de la personne de Jésus. Jésus à contre-courant, c'est Jésus qui est l'ami des pécheurs. C'est celui qui passe par-dessus les barrières sociales. Peu importe la religion, peu importe le rang social, peu importe l'ethnie, il était aussi, peu importe le sexe, dans le sens qu'à l'époque, c'est les hommes étaient importants, les femmes, c'est à côté. Jésus n'a pas fait de distinction. Jésus a tout brisé les barrières sociales que les chefs religieux avaient établies pour dire, si tu fais ça, tu vas être impur. Et Jésus dit, non, ça ne marche plus comme ça. Il pardonne les péchés et fait grâce, au lieu de mettre des fardeaux sur la vie des gens. Il confronte la religion et les chefs religieux. Hugh Walter a dit, Jésus était l'ami des pécheurs notoires. Jésus a eu cette réputation parce qu'il était avec ces gens-là. Il les aimait. Je vais inviter les musiciens à s'approcher. Dans Luc 15, les versets 1 à 7, il dit, tous les collecteurs d'impôts et les pécheurs s'approchaient de Jésus pour l'écouter. Ça, j'aime ça. Tous les collecteurs d'impôts et les pécheurs s'approchaient de Jésus. Juste un instant. Depuis tout à l'heure, on voit justement à quel point Jésus était à contre-courant, puis il était tout le temps en tension avec les chefs religieux qui essayaient de le faire prendre à défaut, qui voulaient lui tendre un piège, lui dire, voici, tu es en train de transgresser nos lois, en fait, nos lois qui sont la loi de Dieu. Et toi, tu ne le connais pas vraiment, Dieu. Et à côté de ça, c'est fou parce que ça dit que les pécheurs, les collecteurs d'impôts, les gens de mauvaise vie, qu'est-ce qu'ils faisaient eux autres? Quand ils voyaient Jésus, ils n'en avaient pas peur. Quand ils voyaient Jésus, ils ne se sentaient pas dans la honte. Ils ne sentaient pas de fardeau. Ils ne sentaient pas de distance. C'est-à-dire, ils s'approchaient de Jésus. Parce que ce que Jésus dégageait, c'était l'amour du Père, la grâce, la vérité, la justice, la paix, la joie, tout ce que ces gens-là avaient besoin dans leur vie. Et parce que Jésus dégageait ça, ces gens-là accouraient vers lui. Parce qu'il en avait soupé de la religion. Mais les pharisiens, les spécialistes de la loi murmuraient, disant, « Cet homme accueille des pécheurs et mange avec eux. » Encore une fois. Alors il dit cette parabole, « Si l'un de vous a 100 brebis et qu'il en perd une, ne laisse-t-il pas les 99 dans le désert pour aller à la recherche de celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve? Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules. Et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit, « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. » De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de changer d'attitude. C'est ce que Jésus est venu faire. Tu étais, j'étais celle qui avait besoin. Et c'est pour ça que Jésus est venu. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce truc-là. Ça m'a toujours frappé depuis des années, depuis que j'ai commencé à marcher avec Dieu, que l'Église est la seule armée qui blesse ses soldats. Et malheureusement, des fois, elle ne fait pas juste les blesser, elle les achève aussi. Jésus est celui qui va chercher celle qui est blessée. Et ça devrait être notre appel à nous tous. D'aller au-delà. D'aller chercher celle qui est blessée. Et des fois, celle qui est blessée au loin, on lui lance des reproches. C'est de sa faute. Parce qu'elle a agi comme ça, parce que si, parce que ça, parce que sa vie. Mais Jésus, lui, choisit de laisser les 99. Ils sont capables de s'arranger tout seuls. Moi, je vais aller chercher celle que la religion a blessée, que la vie a blessée, que les gens ont blessée. Et cette personne-là, cette brebis-là, est peut-être cette brebis-là qui pense que Dieu ne veut plus rien savoir d'elle. Et c'est peut-être ton cas ce matin, et peut-être que vous êtes la personne que vous ne voulez plus remettre, vous êtes en ligne, là, vous regardez en ligne, puis vous ne voulez plus remettre les pieds dans une église parce que vous avez été trop blessé. Savez-vous quoi? Je vous comprends. 100%. mais faites fi de tout ça. Parce que Jésus est au-dessus de tout ça. Jésus, ce n'est pas la religion. Jésus, ce n'est pas Pierre-Jean-Jean qui vous a dit comment vous devriez, si vous faites ça, vous allez être chrétien ou pas. Jésus, ce n'est pas une étude biblique ou un truc qui va vous dire, hey, OK, ben là, si je... ou les cinq lois de ci, de ci, de ça, pour essayer d'atteindre quelque chose, non. Jésus est au-dessus de tout ça. Et Jésus est là pour vous poursuivre, au-delà de ce que vous vivez présentement, au-delà de la déception, au-delà de du brisement et de la blessure. Et trop malheureusement, et aujourd'hui, une des raisons pour laquelle la société ne veut plus rien savoir de Dieu, c'est qu'on a tout mélangé. On a mis les scandales, on a mis des trucs qui arrivent encore. Et on, les gens font comme, ben c'est ça que je veux plus. Des lois, des pratiques, des trucs, puis après ça, il y a des scandales, puis finalement, ces gens-là, ils ne sont pas mieux que nous autres. Pourquoi j'irais là? C'est ça, Dieu. Parce qu'on mélange tout. On fait une recette avec ça. Mais Dieu est bien au-delà et au-dessus de tout ça. Et bien souvent, je pense que Dieu pleure sur l'Église plus qu'il s'en réjouit. Et nous, on devrait également pleurer et être avec ces gens-là qui, aujourd'hui, sont en marge, sont à l'extérieur, et peut-être que pendant des années ont été dans une église, mais aujourd'hui ne le sont plus. Pourquoi? Parce qu'ils ont été blessés et brisés. Aujourd'hui, ils ont juste besoin de reconnecter avec la personne, la simplicité de qui est Jésus. Pas avec une autre religion, pas avec une autre pratique, pas avec une autre, nécessairement une autre église, pas avec Jésus simplement. Brian Zen, je termine avec ceci, il a dit, Jésus a renversé les tables des vendeurs dans le temple, mais a préparé une table de banquet dans la maison de son père. Parce que ça, c'est Jésus. Il est arrivé dans le temple, il a dit, c'est quoi ça? C'est pas chez nous, c'est pas la maison de mon père. Qu'est-ce que vous en avez fait? Vous êtes là pour vendre des trucs, vous êtes là pour faire de l'autopromotion, vous êtes là pour faire quoi exactement? Vous êtes pas là pour mon père du tout, vous êtes là pour votre propre bénéfice. Et ça, c'est la partie de Jésus qu'on est comme un peu mal à l'aise. Hein? Quand on se lit ce passage-là, on fait comme, « Ah, Jésus, il s'est fâché. » Ben oui, ça y arrive. Hey, renverser des tables, ça va être... Moi, là, je pense que c'est un des moments de la Bible que j'aurais voulu le plus vivre. Être dans un coin, là, à côté, sur un mur du temple, là, voir Jésus arriver. Ben, « Qu'est-ce que vous faites là, les chums? Ça ne marche pas. » Et là, j'en fais, « Wow, what? Qu'est-ce qui vient de se passer là? J'ai assisté à ça, là. » Tu as filmé ça, tu mets ça sur Instagram, tu es comme, what the heck? Méchante story. Hey, là, je deviens viral, là. Mais ça devait être live pareil. Jésus n'est pas arrivé. Oui, désolé, les amis, prenez vos trucs, je vais virer les tables à l'envers. Je ne veux pas vous déranger, là. On va juste les virer un petit peu. Bon, on fait plus ça, les amis, là. Pas vraiment la scène que j'ai. Il a pété une coche. Une solide. Mais on n'aime pas ça, Jésus, des fois, se fâche. Mais ça y arrive aussi. Et on n'aime pas ça que Jésus nous dérange. Mais c'est ce qu'il est venu faire. Il a dérangé tout le monde, en fait. Il a dérangé les chefs religieux qui pensaient être proches de Dieu, mais il a dérangé le plus notoire pécheur parce qu'il pensait jamais que quelqu'un l'aimerait à ce point-là. Il a dérangé tout le monde. Et Jésus me dérange trop souvent dans ma vie. Et si Jésus ne te dérange pas, il faudrait que tu l'appelles parce qu'il est peut-être loin. Là. Je dis ça de même. Parce que pour moi, une des plus grandes caractéristiques de Jésus, c'est qu'il va venir te déranger. Il va venir prendre une ligne puis il va la déplacer. Il va me dire, tu pensais que? Moi, je te dis que. Il va venir te poser une question et tu vas faire, non, je ne veux pas arriver à cette réponse-là. C'est la beauté de qui est Jésus. Fermons nos yeux quelques instants, baissons nos têtes. Seigneur, on vient devant toi ce matin et on veut juste te remercier de ne pas avoir été comme toutes les autres idoles, toutes les autres divinités, toutes les autres prophètes, tous les autres chefs religieux, Seigneur. Toi, tu étais hors norme. Tu étais à côté de la traque. pour nous remettre sur la traque, en fait. Tu connais mieux de personne ce que l'être humain a besoin et où il doit être dans sa vie. Seigneur, brise les chaînes de la religion dans nos vies. Enlève le pharisien, le sadducéen, le chef de la loi, le professeur de la loi. Enlève la honte du pire des pécheurs et la culpabilité et la peur. Viens juste, tout simplement, être Jésus. Celui qui aime Dieu, qui aime son prochain et qui fait grâce, qui est venu pour libérer les captifs. Dans le nom de Jésus. Amen. En terminant, levons-nous ensemble vers un dernier chant.